La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Kleenex.
Le temps, c'est de l'argent. Et avec Kleenex, les rendez-vous sont rapides.
Le calcul est simple. Infiltration, mammographie, échographie, radiographie. Vous avez votre prescription. KleenexImagerie.com.
Trois Kleenex. Un numéro, 653-9933.
Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
Pierre-Yves, bonjour.
Salut.
Tu veux me parler de scandale fiscal?
Ouais, je sais pas si t'as vu dans les médias depuis... en début de journée, c'était en anglais, c'était ProPublica. Et là, ça a été repris par la presse et quelques médias. Comme quoi, il y a des grands riches aux États-Unis qui paieraient pas leur juste part d'impôts. Et Sylvain, juste te montrer comment tu peux faire du populisme fiscal des deux bords. Tu sais, tu peux dire, on paye trop d'impôts d'un bord. Puis de l'autre côté, tu peux dire, les riches payent pas leur part. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris l'impôt annuel de Jeff Bezos et compagnie, Warren Buffett, leur impôt personnel. Puis ils l'ont divisé par leur actif. Donc, tout ce qu'ils possèdent. Puis ils ont dit, paye pas beaucoup d'impôts. Attends une minute, là. Je veux être sûr qu'on se comprenne, Sylvain. Mettons que tu gagnes, je sais pas moi, 100 000 d'une année, que tu payes 30 000 d'impôts. Puis là, je dis, hey Sylvain, t'as payé 30 000 d'impôts sur 3 millions d'actifs. C'est pas assez. Ouais, mais c'est parce que les actifs, on s'entend, sont déjà payés avec de l'argent qui a déjà été imposé à une autre époque. Et lorsqu'ils sont revendus hors d'une protection fiscale, ils sont imposables. Donc, tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire à quelqu'un, tu as payé 10 000 d'impôts par année, c'est pas assez parce que tu as une maison de millions. C'est pas de même que ça marche. C'est pas ça, les règles fiscales.
Ouais.
Et donc, on sort avec ça. Puis là, on dit, Warren Buffett, un vrai taux d'impôt de 0,1%. Je dis, pardon, là. T'sais, autre point. Après ça, on dit, oui, il y a des années qui n'ont pas payé d'impôts, certains de ceux-là. Ben c'est sûr. Mettons que moi, là, Sylvain, là, je valais 3 milliards, mais en actifs de placement, puis que j'y touchais pas, puis que j'avais des pertes fiscales passées sur des placements, mais les années que je fais des gains fiscaux, je les annule. On appelle ça des pertes en capital. Hein. Au Canada, tu peux envoyer ça 3 ans en arrière, à l'infini par en avant, parce que si tu fais des pertes, tu peux faire des gains d'autres places puis les annuler. Alors, je trouve que des fois, ce qui est poche là-dedans, c'est que là, ça sort. Là, les gens partagent ça. Ils comprennent pas partout ce qu'ils font. Je te dis, dans 5 minutes, il va y avoir un député qui va sortir ça. Je vais te dire, c'est donc épouvantable. Écoute, je te parie d'ici que demain, j'espère qu'ils m'écoutent, qu'ils vont s'envoyer des messages. Je disais, ah, c'est donc épouvantable. Jeff Bezos paye 0,98% d'impôts. Non, c'est pas ça, tu sais. L'impôt, tu le payes sur les liquidités personnelles que tu as, pas sur l'impôt de la compagnie. Parce que ça, tu le payes aussi. Ça, c'est l'autre affaire qu'il faut vous parler, là. Mettons que j'ai un placement dans Banque Royale. Bien, je reçois pas une part proportionnelle de la Banque Royale à moi parce que il y a de l'impôt sur les bénéfices des compagnies à chaque année. Après ça, c'est attribué aux actionnaires de deux façons, soit en dividendes qui sont imposables à un certain taux, et aussi à la plus-value de l'action dépendant de ce que le marché en pense. Alors, tu sais, oui, il y a des gens là-dedans qui ont peut-être pas payé d'impôts dans une année sur les revenus déclarés personnels parce que ils en ont pas eu besoin parce que tout est payé, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est comme moi, Sylvain. Mettons que je te disais une année, je me verse aucun revenu. Je vais vivre juste avec mon CELI. Sais-tu quoi, Sylvain? Le Canada puis le Québec vont m'envoyer de l'argent. Parce que je vais avoir déclaré zéro revenu. Puis ils vont dire, mais t'es pauvre, on a un crédit de solidarité ou sur le petit revenu que tu vas déclarer, on va t'envoyer de l'aide, tu sais, t'es pauvre, fait que tes enfants, on va t'envoyer des allocations en masse. Fait que ça me fait rire un peu quand on comprend pas la fiscalité puis qu'on lit un article de même. Hey, là, tu checkes le titre, là. Le titre, c'est simple, là, ça fesse. Là, hein? Agence France-Presse, la presse, copier-coller ça. Équité fiscale, Jeff Bezos, Elon Musk et d'autres milliardaires ont échappé à l'impôt. Puis là, les gens lisent pas l'article, comprennent pas l'article, puis ils partagent ça. Je te dis que c'est... Mais là, c'est dans un sens. Ça aurait pu être dans l'autre aussi. Il y a des fois des gens qui disent qu'ils payent trop d'impôts, puis je leur dis, calmez-vous, là, tu sais.
Ouais,
c'est vrai qu'il faut payer sa juste part d'impôts sur les revenus personnels.
Exact.
Mais des fois, je trouve ça un peu populiste. Puis j'aime pas ça quand nos grands médias prennent une affaire de même, biaisée, ils le reprennent, puis à toute fin de l'article, ils disent, en passant, on est conscient que c'est un calcul de marde. Tu sais, c'est écrit mot. Hey, c'est écrit noir.
Mais on a fait plaisir au monde parce que c'est toujours chialer contre les riches, puis tout ça. Tu sais que ça va pogner, puis ça va. Bon.
Tu sais, c'est écrit noir sur blanc que le calcul, tu sais, c'est pas vraiment ça. On l'écrit dans l'article, mais ça fesse. C'est comme si je sortais un article, Pierre-Yves McSween est en faillite. Hey, là, il y aurait du clickbait, puis je recevrais de l'aide. À la fin de l'article, ce serait une des compagnies dans lesquelles Pierre-Yves McSween est investi est en faillite. Méchante nuance, tu sais. T'as mis 5 000 d'une compagnie à perdre toute. Mais tu dis que la personne déclare faillite, mais dans le fond, c'est un des placements qu'il possède. Ben, tu sais, tu comprends? Il y a moyen en média de faire du brun avec du blanc.
Mais c'est vieux comme le monde. Faisons payer les riches. Les riches sont coupables. Les riches, en tout cas, il y a de
certaines
catégories de population. Non, mais on peut les critiquer, puis des fois, ils en payent pas assez, puis etc. Mais t'as pas besoin de jouer avec la vérité pour ça. C'est ça que tu nous dis, là, maintenant. Bon. Comment négocier son salaire? Tu veux nous donner des trucs?
Oui. Oh, c'est parce que, Sylvain, j'ai parlé de négociation récemment, puis là, le monde m'a dit, j'essaie de négocier, ça marche pas. Bon, là, je dis, dans le fond, la première erreur qu'on fait, c'est de se mettre dans notre propre peau quand on négocie. Prenez 5 minutes. Allez vous asseoir dans la chaise du patron. Puis dites-vous, si j'étais à sa place, si j'étais à sa place, j'augmenterais les revenus. Non, non, on va aller voir. Première des choses en business, surtout si vous êtes dans une grande entreprise, il y a une direction DRH qui a une enveloppe d'augmentation. Puis on dit, cette année, c'est tant de milliers de dollars ou tant de millions de dollars dépendant de l'entreprise. Et that's it. Fait qu'en bas, arrangez-vous. Ça veut dire que, Sylvain, si tu veux une augmentation, si tu veux de l'argent, à qui t'en enlèves? Parce que c'est exactement ça qui va arriver. Si tu demandes un bonus ou une augmentation de revenus, il faut qu'il n'en donne pas à quelqu'un d'autre parce que l'enveloppe est fixe. Ça ne bougera pas parce qu'au niveau corporatif, ça a été décidé. Là, tu peux te battre contre ça, dire que c'est pas juste dire que les actionnaires en ont trop. Tu peux dire ce que tu veux. Mais mets-toi dans. Une fois que tu as compris ça, deuxième affaire, la rémunération est répartie selon souvent dans les grandes entreprises une courbe normale statistique. C'est-à-dire qu'ils prennent une espèce de montant. Imaginez-vous que le Mont-Royal. C'est la répartition des bonus puis des salaires qui augmente. À gauche du Mont-Royal, ben c'est, disons, les non satisfaisants. Puis à droite, c'est les très satisfaisants. Donc, il y a une très, très, très petite infinité de personnes qui vont être non satisfaisants et très satisfaisants. Et la majorité du monde vont être dans le tapon du milieu, c'est-à-dire dans le sommet de la courbe statistique. Et donc, si tu veux être dans les très satisfaisants, faut que tu cibles des non satisfaisants et que tu battes des non satisfaisants. Après ça, Sylvain, une fois que tu sais tout ça, tu dis « OK, qui a le plus à perdre? » À quel point t'as comme employé une tête assez grosse pour penser que t'es plus gros que l'entreprise? Évidemment, Sylvain, plus l'entreprise est petite, plus ça frappe. Exemple, tu travailles dans un commerce de coin de rue, il y a 3 employés, ton poids médiatique dans ta communication est fort.
Plus fort,
on est d'accord? Mais après ça, demande-toi, si t'étais le boss, c'est-tu compliqué de me remplacer? Présentement, dans les restaurants, on s'entend que c'est compliqué. Deuxièmement, est-ce que ma tâche est difficile? T'sais, y a-tu un rejet? Y a-tu du monde qui veut pas le faire? T'sais, comme présentement, je passais tantôt, il y avait le ramassage des ordures, puis tu avais aussi quelqu'un qui travaillait sur une terrasse. Puis là, je me dis, probablement, c'est plus facile de recruter pour être travaillé sur une terrasse, parce qu'il y a plus de monde qui veulent faire ça, malgré tout. Après ça, la rareté des ressources, évidemment, y en a-tu dans le moment? Puis le rendement se mesure-tu? T'sais, si tu dis, moi, je mérite une augmentation de salaire, là, t'es-tu capable de le prouver avec des chiffres de façon très forte? C'est pour ça que les vendeurs sont bien rémunérés. C'est parce qu'ils arrivent avec des chiffres. Je suis payé aux chiffres, tu me donnes des chiffres, je te paye. Et c'est-tu mesurable? T'sais, ton boss, es-tu capable de voir ça? Fait qu'on fait pas de sentiments. Hey, je sais pas si tu sais. Moi, j'ai travaillé en 1999.
Ah ouais, je le mérite. Excuse-moi, là. Patron, je mérite une augmentation. Ça, t'es en train de nous dire.
T'as-tu déjà essayé ça?
Je le mérite. Je suis une bonne personne. Non, non. T'es en train de nous dire. Je comprends. Non, mais on a ce réflexe-là. C'est pas comme ça que ça marche. Prouve-le. Prouve ta valeur.
Oui,
prouve
laisse faire le sentiment. C'est, ouais. On t'est fin.
T'as ça.
Tu sais, tu peux me dire, Pierre-Yves, je suis fin avec toi. Puis moi, je vais te répondre, ben, t'es bien gentil, Sylvain, mais ça ne met pas du beurre sur la table.
Ouais.
Et donc, exemple, on ne fait pas de sentiment. En 1998, je travaillais à Goodyear, 99-2000, puis il y avait un boss de nuit qui était très taylorien dans son approche. S'il écoutait, il se reconnaîtrait. Il dit, on n'est pas ici pour faire du sentiment. Il me disait tout le temps ça. Fait que, disons que j'ai été élevé à la dure il y a 25 ans, là, 23 ans. Et alors, il était là, puis il disait, écoute, on est ici pour produire, pas faire du sentiment. Donc, quelqu'un qui me dit, je travaille fort, je mérite plus, je fais une bonne job, je suis sympathique, non. Il faut que tu aies des arguments. Puis, je te donne un autre exemple. Il y a un boss qui m'est arrivé de un moment donné. Il dit, j'ai une étude ici de Tower Pellerin sur le salaire moyen des analystes à Montréal. Alors, Sylvain, ça aussi, il faut le préparer. Parce que ton boss, il a préparé un contre-argument. Moi, j'étais CPA à l'époque. Fait que je le dis encore, mais je disais, là, je dis à mon boss, parfait, les analystes sont-ils tous CPA? Il dit, non. Je dis, ben, tu peux jeter ton analyse d'abord parce que, si tu ne compares pas des pommes avec des pommes, il a pris son analyse, il l'a mis dans son tiroir. Alors, tu vois ça, il faut que tu prépares les contre-arguments. Donc, mets-toi dans la peau du boss, Puis demande-toi ses contre-arguments. Puis aussi, t'es-tu prête à partir? Hein? Ça, c'est le 20... On le sait, là, dans la vie, moi, je l'ai vécu souvent. Quand tu menaces de partir, faut que tu sois prête. Est-ce que tu penses que Jean-Simon, Karen et Si, ils ont vécu ça souvent? Fais-tu en parler? Peut-être pas chez Cogeco, là, ailleurs, je parle.
Tu parles de la menace de partir?
Non, la communication, la négociation. Y a-t-il chez okay, vous, c'est-tu quelque ça, chose là. Qui... Pardon?
OK, tu parles comment ça s'est passé, puis tu dis à tes
anciens
collègues...
employeurs. Toi, c'est bien ton premier employeur, là. Mettons ton deuxième ou ton troisième. Ça a-tu toujours été en radio, toi?
Oui, oui, tout le temps.
Pour vrai?
Oui, oui, oui.
T'as jamais eu besoin de tondre des gazons comme moi, puis travailler chez McDo, puis...
Non, ben t'as peu. Pendant mes études, j'ai fait d'autres choses, mais à partir du moment où j'ai eu mon diplôme, j'ai toujours travaillé en radio.
T'es un gars de micro depuis le début des temps.
Oh, depuis 1992.
Oh, quand même. T'as connu la crise économique. Donc, à cette époque-là, un bon exemple. Ça, c'est une autre affaire. Les cycles économiques. En 1992, t'acceptes ton premier micro. Ben là, ton employeur, il fait comme, ben, écoute, on est en crise économique. Tiens, sais-tu combien ça gagnait un CPA en 1992 qui commençait?
Combien?
19 000 $ par année. Ça, c'était dans les grandes firmes à Montréal. Hey? 19, 20 000, 21 000. En 1992, là. En 1998, en usine, je gagnais autant en étudiant d'été. Ça te donne une idée, en 6 ans, des fois, il y a des choses qui se passent, mais surtout, il y a des employés qui sont mal payés, tu sais, pour ce qu'ils font.
Ouais.
Des fois, on commence bas, tu sais. Puis, tant qu'on n'a pas de valeur, c'est impossible de négocier comme
pouvoir. Travailler sur sa valeur, c'est ce que tu dis d'ailleurs.
Mais c'est difficile, travailler. Notamment pour les femmes.
Oui, OK, Karen t'amène un bon point, là.
Je pense qu'on est moins bonne négociatrice que les hommes pour une raison, c'est qu'on se sous-estime beaucoup alors qu'un homme aura tendance à se surévaluer.
J'ai remarqué ça de façon personnelle. Je t'avoue, tu as raison que dans ma carrière, les filles de mon niveau attendaient d'être capables de faire la job à 100% pour se vendre.
Oui.
Les gars allaient vendre un peu plus de bullshit, c'est-à-dire j'apprendrai.
Oui,
mais
exact.
C'est vrai, mais puis le moment donné, tu apprends que c'est de même que ça fonctionne. Tu peux pas accepter une promotion que tu es déjà capable de faire. Faut que tu acceptes une promotion que tu vas être capable de faire.
Mais accepter une promotion versus pitcher sur un poste que tu as le goût de faire, mais tu n'es pas sûr de... Tu sais, tu rentres pas dans toutes les qualifications, mais éventuellement, tu vas y arriver.
Alors, c'est très ressources humaines. Là. Les ressources humaines, juste à dire un petit sales pitch comme ça, là, demandent toujours plus que ce qu'ils sont prêts à accepter. 8 ans d'expérience va devenir 5. Un titre, comptable et préférence, ça veut dire qu'ils sont prêts à ne pas l'accepter. Tu sais, pratique d'avocat, tu peux être technicien juridique des fois. T'sais, tu comprends ce que je veux dire?
Oui, tu gonfles le titre. Là.
Ouais, des fois, ils tirent fort pour essayer d'avoir gros, puis ils acceptent moins. Tu sais, c'est comme si tu me disais, moi, je me cherche un chum millionnaire, éduqué, avec une maison, un chalet, un bateau. Puis là, tu mets des critères, puis là, tu parles à tes amis, tu sais. Puis là, tes amis disent, ben, t'as quand même closé pour moins que ça. Excuse-moi, mais tu demandes toujours tout. Plus que ce que tu es capable d'avoir. Parce que, tu sais, à un moment donné, il y a une limite, là. Mais les ressources humaines ne sont pas différentes. Ils envoient le poste qu'ils voudraient. Puis, à un moment donné, les candidats s'assoient. Ils disent combien ils veulent. Puis là, ils font des compromis.
Alors, n'hésitez pas à aller postuler. Puis, bingo.
Puis, à demander plus.
Puis, avoir confiance en vous.
Je raconte une histoire rapidement, OK?
Vas-y.
Il y a une étudiante qui était en droit notarié, OK? En droit. En première année, elle va voir son boss, puis son prof, puis qui avait de la business en affaires. Elle dit, moi, je suis prête à travailler pour toi. Il dit, hey, la jeune. Calme-toi. Puis il a dit, ah ouais, moi j'ai rien à perdre, je suis venu te voir. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait 3 ans plus tard quand t'étais finissante? Il s'est dit, elle avait du chien, elle m'a demandé de travailler quand t'avais pas encore le potentiel de le faire. Puis maintenant, ben c'est à elle que j'ai pensé.
Parce qu'il s'est souvenu de ça.
Exact.
Ça. Alors, merci Pierre-Yves.
Salut.
Merci. 17h, c'est ça aujourd'hui. Ça va, faut dire qu'avant... On a vécu une révolution en matière de travail qui est majeure, là. Beaucoup de gens, autrefois, se posaient pas ces questions-là. Quand Pierre-Yves nous a dit, est-ce que vous vous en parlez entre vous? Jasez-vous de ça un peu? Ça, avant, tu rentrais dans des jobs qui étaient majoritairement des grosses jobs d'usines, de grosses shops ou gouvernement. C'était syndiqué. Fait que tu n'avais pas à négocier toi-même quand on dit travailler sur ta valeur,
non,
appliquer
sur
des
salariale.
Postes. Tous les conseils que Pierre-Yves va donner, c'est exemple, pour mon père, ma mère qui était enseignant, dire, écoute, ils ont suivi à vague. Là, je veux dire,
il n'y avait pas de négociation possible, c'était selon tes études, selon ton expérience.
Ben, that's it, ils rentraient à quelque part, etc. J'ai plein d'oncles de tantes qui travaillaient dans les usines. Ils ont passé leur vie là. Tu postules souvent, non seulement que tout était déjà organisé ou structuré, mais souvent il y avait une job à vie. Fait que ils rentraient quelque part puis ils finissaient là.
Ouais.
On parle à des gens là, d'un certain âge, peut-être 70, 60, que là, c'est ça qu'ils ont fait. Aujourd'hui, la nouvelle génération, non seulement vous allez rentrer dans des milieux, il y en a encore, là, des syndiqués, mais où vous allez négocier vous-même vos conditions de travail, mais pour un petit bout, après ça, vous allez aller ailleurs. Mm-hmm. Puis vous allez recommencer dans trois ans une nouvelle négociation dans un autre. Donc, quand Pierre-Yves dit « Travaillez votre valeur », c'est important, puis n'ayez pas peur d'être ambitieux, ambitieuse.
En ce moment, avec la pénurie de main-d'œuvre, on a un petit peu plus le dernier mot, j'ai l'impression.
Dans certains domaines, dans certains domaines, avoir le gros bout du bâton, il ne faut pas se gêner.
Je trouve que ça aide un peu, parce que moi, j'en ai vu en restauration en ce moment. Là. Normalement, les employés, les serveurs, ce n'est pas eux qui décident. Puis en ce moment, ils en ont tellement besoin d'eux que c'est eux qui décident quand ils veulent travailler. Ils peuvent négocier.
Mais ça, ça crée un autre problème.
Mais il ne faut pas aller trop loin non plus. Je ramène le premier argument que Pierre-Yves a donné. Essayez de vous mettre dans la peau de votre patron. Tu sais, pour avoir plus possible, pour avoir les meilleures conditions. Mais aussi pour des fois accepter que si vous demandez la lune, il va fermer sa business tant qu'à ça. À un moment donné, si t'es capable de te mettre dans la peau du patron, tu demandes un salaire qui va perdre de l'argent avec ça, il te le donnera pas.
Exact.
Même si t'as le gros bout du bâton, il y a une limite, là. Va rester fermé. T'sais, comme on a des restos à Québec qui restent fermés actuellement.
Oui,
ils pourraient bien à 30-40$ de l'heure, d'après moi.
Il ne faut pas abuser non plus.
Il trouverait du monde, mais il faudrait qu'ils vendent sa pieuvre 60$. Mais là, elle est excellente. Parce que là, on n'ira pas.
Ça marchera plus, là.
À 60. Fait que c'est la première affaire qu'elle dit. C'est un des premiers conseils aussi. Quand tu négocies, c'est toujours bon d'essayer de te mettre dans la peau de l'autre personne.
Autant pour comprendre, autant pour appréhender, en fait, le contre-argument qui peut t'amener.
Je sais pas s'ils vous l'enseignent à l'école. Ils vous l'enseignent-tu, ça?
Non.
Hey, ça fait longtemps que je suis sortie de l'école. Là.
Non, mais je ne me l'enseigne pas.
Non, mais regarde, elle sort. Est-ce que dans toute ta scolarité, là, tu viens de sortir de Concordia, tu as eu un cours sur comment négocier ton salaire?
À la base, en journalisme et en communication, nos stages n'étaient pas payés. T'sais, on sort de là, puis c'est le premier stage pas payé. Fait qu'on n'a pas même de négociation là-dessus. C'est que tu travailles pour te faire de l'expérience.
Mais ça devrait faire partie d'un cours d'économie qu'on réclame depuis des années au secondaire, puis commence à avoir sur savoir comment marchent les cartes de crédit, comment ça marche signer des baux, comment ça marche, etc.
C'est vrai que c'est intéressant.
Une hypothèque aussi. Oui, une hypothèque.
Mais même au secondaire, peut-être plus, puis au cégep.
Au secondaire? Secondaire. Comment ça marche quand vient le temps de négocier votre salaire? Bon, voici les règles.
Mais il y avait des cours de même avant, non?
Il y a déjà eu des cours d'économie dans mon temps. Ils ont aboli. Ils ont mis des cours là, d'éducation culture religieuse là, pendant 50 ans. Là. C'est pas entièrement mauvais. Je veux pas cracher là-dessus, mais d'après moi, 50 ans, là, à un moment donné...
Mais je pense que dans tout programme, ce serait bon de savoir à peu près... Voici, si vous sortez que vous avez tel poste, voici la fourchette dans laquelle vous devriez être payé. C'est pour se donner une idée.
Oui, sont un petit peu en conseil d'orientation. Là, les conseillères ou les conseillers venaient puis nous l'apprenaient un petit peu.
Mais des techniques de négo, juste mais... que Pierre-Yves vient de faire.
Non, ça, jamais.
Ça devrait ça faire ça à l'école.
C'est l'expérience de vie.
Faites-le pas. Comme ça, les gens vont écouter plus Bouchard en parle. On va le faire, nous autres.
Mais oui!
Laissez-nous ça.